Maintenant, la démocratie. Alors, je ne voudrais pas vous décevoir, mais la phrase qui est là au-dessus, entre guillemets, en italique, n'est pas dans le texte. Mais c'est un net mémoire. J'ai pensé qu'il était important de se rappeler quel était le principe cardinal de la démocratie. Avec un système de démocratie représentative, vous conviendrez que le Parlement est l'Assemblée, l'institution politique la plus importante. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait avec le Parlement européen dans ce traité. Je vous rappelle, les fonctions traditionnelles d'un Parlement, c'est faire les lois, voter les recettes et les dépenses, et contrôler le pouvoir exécutif. Bon, voilà ce que nous dit le traité. Quand on lit ça, on a le sentiment que le Parlement remplit toutes les fonctions d'un Parlement classique. Même si j'ai mis conjointement avec le Conseil, mais c'est pour attirer votre attention sur une explication que je vais vous donner dans un instant. Bon, reprenons, si vous voulez bien, les trois fonctions. Faire les lois. Alors là, j'ai un problème. Excusez-moi, je ne fais pas une fixation à l'égard de M. Hollande, mais il se trouve que j'avais lu par hasard le lendemain d'une conférence que j'avais donnée à Nantes, dans un journal régional, une interview où il disait « Grâce à cette Constitution, le Parlement va pouvoir adopter ses propres lois. » Voilà la réponse. Et ce n'est pas nouveau. Ça a même 47 ans et demi. C'était dans le traité de Rome. Et on ne change rien. En fait, ici, vous avez la description du fonctionnement historique des institutions européennes. La Commission propose, le Conseil des ministres, décide, la Commission exécute. C'est comme ça que les choses se sont passées pendant des dizaines d'années. Elles ont commencé à changer avec le traité d'Amsterdam, parce qu'on s'est dit, maintenant qu'on a élu le Parlement européen au suffrage universel, il faudrait quand même l'associer au travail législatif. Jusque-là, quand il fallait faire une loi européenne, qu'on appelle une directive, eh bien, c'était le Conseil des ministres qui était le législateur. À partir du traité d'Amsterdam, on associe, donc c'est ça le système, conjointement avec le Conseil, on associe le Parlement quand il doit faire des textes dans 32 matières. Alors c'est une procédure un peu compliquée, excusez-moi, mais je pense qu'il est important que je vous l'explique pour que vous voyez la portée de ce qui est apporté par le traité qu'on doit ratifier. Cette procédure un peu compliquée, ça s'appelle la codécision. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Quand la Commission propose un texte et que ce texte concerne les 32 matières, alors le texte est envoyé d'une part au Conseil des ministres et d'autre part au Parlement. Le Conseil des ministres, généralement, c'est comme ça que ça se passe, crée un groupe de travail dans lequel il y a un représentant de chacun aujourd'hui des 25 pays, qui examine le texte article par article. Et il y a, si vous voulez, une sorte de négociation entre États sur le texte. Le Parlement, lui, procédure classique, envoie le texte dans une commission parlementaire où on l'examine. Mais au Parlement, la procédure est un peu plus sophistiquée. Il y a deux lectures. Il y a un premier examen du texte et puis il y a un second examen. Si pendant le premier examen du texte, le Parlement a modifié le texte, quand il a terminé la première lecture, la Commission peut revenir sur les modifications et les supprimer. Si elle ne les supprime pas, le texte est envoyé au Parlement en deuxième lecture, mais au Parlement, en deuxième lecture, on ne peut plus dire que oui ou non. Une fois que le texte est adopté, on doit vérifier qu'il est le même que celui auquel les gouvernements sont arrivés. Si ce n'est pas le même, il y a une procédure de conciliation. Vous voyez quelles sont les limites de la procédure de codécision. Le Parlement ne peut pas proposer ses propres textes et finalement, chaque fois qu'il veut changer les textes de la Commission, il faut que la Commission et le Conseil des ministres soient d'accord. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu personnellement. C'est une loi sur le brevetage du vivant. Enfin, directive, 97-98. La Commission, donc, dépose un texte, comme les brevets c'est du commerce, comme le commerce est une des 32 matières, le texte est envoyé au Conseil des ministres et il est envoyé au Parlement. Les parlementaires commencent à l'examiner et quand ils arrivent à l'article 5, ils calent. Pourquoi ? Parce que ça concerne, j'ai oublié de vous le dire, la proposition concerne le brevetage du vivant végétal, animal et humain. L'article 5 concerne l'humain. Pour des raisons sans doute philosophiquement très différentes, il y a des oppositions dans tous les groupes politiques. Et les parlementaires se mettent d'accord sur ce qu'on appelle un amendement, c'est-à-dire une modification du texte. Et qu'est-ce que dit cet amendement ? Dans l'hypothèse où du matériel génétique est prélevé sur un être humain, qui est utilisé à des fins de recherche, qui débouche sur une invention qui justifie un brevet, dans cette hypothèse, la personne sur laquelle ce matériel a été prélevé, ou si elle est décédée, ses ayants droit, 1. Doit être informé, 2. Doit avoir donné son accord. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé de la personne. En commission, l'amendement est voté, et puis quand le texte est terminé, l'examen du texte est terminé en commission, il vient en séance publique, et il est voté aussi. Première lecture terminée, qu'est-ce que fait la commission ? Elle supprime l'amendement. En deuxième lecture, le Parlement européen n'a plus le droit que de dire oui ou non, mais entre-temps, il s'est passé 8 mois, une grosse campagne de lobby sur un certain nombre de parlementaires, et le Parlement accepte le texte de la commission. En fait, en fin de la procédure, le Parlement, il a le pouvoir de dire oui, mais c'est souvent un pouvoir qui consiste à s'incliner devant la volonté de la Commission et du Conseil des ministres, ou il a le pouvoir de dire non. Il peut dire non. Il a un réel pouvoir de dire non aujourd'hui et de rejeter un texte. Seulement, il ne s'en sert pas beaucoup. Parce que vous le savez comme moi, depuis qu'il existe, le Parlement européen est largement dominé, je vais dire, par une majorité de libéraux de droite et de gauche. En fait, sur la législature précédente, 1999-2004, il ne s'est servi de son droit de dire non que 2 fois. Une fois pour rejeter une proposition sur les dockers et une autre fois pour rejeter une proposition sur les brevets sur les logiciels informatiques. Mais qu'est-ce qui se passe quand il dit non, quand il a le courage et la force de dire non? Mais la commission, qui travaille en symbiose avec les groupes patronaux, avec les groupes de pression de certains milieux professionnels, elle laisse passer du temps, le temps qu'il faut pour qu'un certain nombre de parlementaires changent d'avis, sous les contacts que vous pouvez deviner. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. La commission vient de redéposer les 2 propositions que le Parlement avait rejetées l'année passée. Et aujourd'hui, il y a des parlementaires qui sont beaucoup plus souples. Voilà, ça, ce sont les limites de la codécision. Je les ai résumées ici parce que c'est la méthodologie. C'est comme ça que fonctionne le pouvoir législatif du Parlement européen. Le Parlement n'a pas le droit de proposer ses propres textes. Il peut être co-législateur dans les 32 matières convenues à Amsterdam. La Commission peut toujours supprimer les modifications apportées par le Parlement. Et en fait, le véritable pouvoir du Parlement, c'est de dire non, mais il s'en sert très peu. Alors, par rapport à ce système, qu'est-ce qui change ? Est-ce que le traité nous apporte une différence ? Oui. La chose qui change, ce n'est pas la méthode. La méthode reste la même. Les limites restent les mêmes. Donc, pas de possibilité de proposition pour le Parlement européen. Pas de possibilité, obligation d'avoir un accord finalement avec les 2 autres institutions, mais on va passer de 32 à environ 80 matières. Quand on vous dit l'extension des pouvoirs du Parlement européen, c'est en fait l'extension des matières sur lesquelles il pourra être co-législateur dans les limites que vous avez sous les yeux. C'est un progrès, c'est un point positif. L'objectivité veut qu'on le constate et qu'on l'enregistre.